va pouvoir passer aux questions dans la salle s'il y en a. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait plusieurs personnes qui réagissent. Vous avez été un peu provocatrice par moment. Sur l'auto-formation, vous conseillez à tout le monde de mettre ça en place. Est-ce que vous le faites vous-même et depuis longtemps ?
Concernant les formations...
L'auto-formation, oui.
L'auto-formation, eh ben, on essaye de le mettre en place, en fait. Donc, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, vouloir former dans les services à l'évaluation par les différents outils de base, hein, comme les outils diagnostiques, l'entretien diagnostique ADI, l'échelle d'évaluation d'intensité des symptômes CARS ou la DOS, qui est, vous dites, une échelle complexe, hein, vous avez raison, professeur Poinceau, le centre de diagnostic ayant cette compétence-là, je dirais, eh ben, on a décidé au niveau du groupe hospitalier de territoire parisien, qui réunit 7 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, de partager cette connaissance-là, voilà, pour que aussi les CMP, parce que c'est bien beau que tous les enfants doivent passer par un centre de diagnostic labellisé, mais les CMP, eux aussi, ont des professionnels qui savent faire le diagnostic de façon, on va dire, au regard des recommandations de la HAS qui sont tout à fait intéressantes à retenir, et plutôt que d'attendre de passer par un centre de diagnostic et d'évaluation, parce que vous le savez, les durées d'attente sont entre de 7 mois à 1 an pour avoir un diagnostic. Quand on a un bébé de 18 mois qui pour lesquels les parents s'inquiètent, est-ce que c'est problématique de faire attendre les familles? Donc on se forme les uns les autres dans ce registre-là, par exemple.
Madame.
Oui, bonjour. Hélène Béchard, je suis responsable administratif et financier du Centre ressources autisme Rhône-Alpes à Bron, qui est le centre ressources autisme coordonné par le docteur Saunier. Moi, je voudrais juste...
Je ne vous vois pas. Où est-ce que vous êtes, pardon?
Je vous rejoins totalement quand vous parlez, en fait, d'une forme de paupérisation par rapport aux familles quand elles doivent accompagner leurs enfants, et également par rapport à l'auto-formation des équipes. Et moi, j'ai une question par rapport, enfin pas une question, mais une remarque par rapport au sujet où en fait on parle d'un investissement d'avenir en ce qui concerne la santé mentale des enfants et des adolescents. Et ça rejoint pour moi vraiment de manière très pratique quelle politique en termes de ressources humaines on va donner donc au secteur de la psychiatrie et pas qu'au secteur de l'autisme pour permettre aux professionnels de s'inclure finalement dans une longévité de parcours d'accompagnement. Et pour étayer un peu mon propos qui peut paraître décousu, mais c'est que j'ai pas mal de choses à dire, moi, à titre d'information, je fais partie du comité de pilotage de la CNSA pour la mesure 23, qui est l'aide aux aidants, en fait, et, en lien avec les associations de familles. Et également, je fais partie du COPIL des UEM, dont vous avez parlé tout à l'heure, au niveau de la région Rhône-Alpes. Et ce qui est assez criant de vérité quand on est dans ce travail de réseau et de maillage, c'est de se rendre compte qu'il y a des moyens qui sont en fait alloués en termes de formation pour les équipes. Je rejoins ce que le professeur Poinceau disait tout à l'heure, à savoir que en ce qui concerne l'achat de tests, de diagnostics, c'est très protégé, c'est très cher, et ne serait-ce que les formations sont très coûteuses en temps pour les institutions, mais également en termes de coûts pédagogiques. Et moi, je me rends compte avec mon expérience sur l'aspect financier qu'il y a également une perte humaine par rapport à ces formations, à savoir que le statut précaire de certaines personnes qui sont soit des CRA, soit des CAMS, des CMP, ce que vous voulez, ne permet pas d'inscrire une collaboration dans la durée. Et là, ça interroge vraiment finalement sur quelle politique RH. Je vous donne un exemple. En Rhône-Alpes, on a un réseau de diagnostic précoce sur la détection des TSA pour les enfants de 0 à 4 ans, où on est en lien avec 8 centres hospitaliers différents, et on est sur le recrutement de neuropédiatres et de neuropsychologues. C'est un dispositif qui a maintenant à peu près 2 ans, et pour chaque unité décentralisée sur des centres hospitaliers, au bout de 2 ans, j'en suis déjà parfois à un troisième recrutement au niveau des professionnels, parce qu'on n'arrive pas finalement à les garder par rapport à des valorisations de salaire qui, je vais peut-être un peu mettre les pieds dans le plat, sont parfois honteuses pour moi par rapport à l'expertise et à la technicité que ça demande. Et on se rend compte qu'on paye des formations pour ces personnes et que par la suite, c'est des personnes qui s'enlèvent du réseau et vont soit s'installer en libéral, soit aller dans d'autres unités. Alors, ce n'est pas de l'argent perdu puisque c'est des personnes qui seront toujours en lien avec les patients. Mais moi, sur un réseau, par exemple, maintenant, je me retrouve avec des neuropsychologues que je ne peux pas recruter, qui se sont parfois installés en libéral pour faire des bilans neuropsy. Et un bilan neuropsy n'est pas remboursé par la CPAM. Et on a des parents qui se retrouvent à sortir du droit commun de ce que peut proposer un service public pour aller vers une forme de privatisation sur des bilans. Et un bilan neuropsychologique, c'est 390 euros. Je ne pense pas que toutes les familles puissent...
Merci pour ce témoignage.
Je vais finir. Et moi, je pense qu'il faut vraiment également... On parle d'investissement d'avenir, d'accord, mais comment concrètement on va investir sur les professionnels que nous sommes et sur la pérennisation des emplois.
Voilà, quelle juste politique de ressources humaines. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vous qui puissiez répondre
cette
question.
Plus une réflexion entre ce que le professeur Poinceau et vous-même avez dit par rapport à l'auto-formation et on va s'inscrire dans une dynamique d'accompagnement.
Merci. Juste un mot éventuellement et puis on passera à une autre question.
Oui, non, je voulais juste dire que ça s'était discuté, par exemple, au niveau de l'éducation nationale et des auxiliaires de vie scolaire. Alors là, c'est encore aussi la précarité des contrats qui ont une durée limitée. Et au bout de 2 ans, voilà, bye-bye l'AVS. Et pour un enfant qui a besoin de routine et de sécurisation, quand ça se passe bien avec l'AVS, parce que leurs formations sont malheureusement très... inexistantes, et parfois il y en a quand même qui sont de grande qualité, qui accompagnent bien les enfants, mais ça a été discuté effectivement au sein du COPIL national, là, parce que la formation des AVS et le fait qu'elle ne reste que 2 ans, enfin, cette histoire de la pérennisation des personnes, c'est un vrai problème.
Madame.
Je voulais juste dire, pour le dépistage de l'autisme, ce que j'avais compris, c'est qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le pédiatre, le médecin généraliste, la PMI. Le deuxième niveau, c'est le CMP. Le troisième niveau, c'est le CRA. Mmh. Donc il y a une obligation pour les médecins, les psychiatres des CMP enfants de se former parce qu'on est censé faire le diagnostic. À Grenoble, on fait le diagnostic et on s'adresse au réseau spécialisé. Enfin, ils n'acceptent maintenant que les cas complexes.
Donc, devrait être le cas.
Après, il y a quand même la question de la formation des pédopsychiatres pour lequel il faut se familiariser à ces outils de dépistage et puis faire soi-même... poser soi-même le diagnostic sans attendre.
Oui, je ne sais pas si vous êtes confronté à ça, mais en tout cas sur la région Île-de-France, les parents, s'il n'y a pas un certificat médical MDPH rempli avec un tampon d'un centre de diagnostic autisme, ça passe moins bien ou ça passe pas dans les accompagnements, et c'est un vrai problème. Donc les parents, même s'ils ont une équipe qui a fait des évaluations tout à fait satisfaisantes, qui ont évoqué le diagnostic, qui ont des pratiques tout à fait en accord avec les besoins de l'enfant, et ben ils doivent repasser quand même par le centre de diagnostic, et pour l'instant c'est encore comme ça. Donc on ne voit pas que les pathologies complexes.
Nous c'est pas le cas, puisque finalement...
Je vous ai dit, en province c'est
mieux en province que par exemple.
Il y a madame derrière qui avait envie de réagir juste à cette question. Madame derrière, tout de suite, elle voulait réagir à cette question avant de passer à monsieur.
Juste pour dire que quand même, dans ce que j'entends aujourd'hui, il y a une sacrée hétérogénéité des territoires. Nous travaillons en Haute-Garonne, c'est pas parfait, c'est pas le Nirvana. Néanmoins, on n'est absolument pas dans ce que vous décrivez actuellement. Le CRA fait une formation sur l'ensemble des CMP, des CMPP. Il y a des équipes dites de proximité qui sont adossées à chaque secteur de pédopsie. Donc le CRA a été particulièrement volontaire. Et du coup, effectivement, les CMP et CMPP ont des reprises de formation sur leur propre secteur avec des supervisions au moins tous les 2 mois. Je veux dire, et actuellement, ce n'est pas encore le Nirvana, mais vraiment, c'est reconnu. Et la MDPH, si les choses se font, ça passe tout à fait bien. Donc, je crois qu'il faut quand même garder espoir.
Merci pour ces précisions. Monsieur, sera la dernière question.
Donc Daniel Sechter, médecin des hôpitaux.
À moins qu'il y ait madame dans le fond. Bon.
Daniel Sechter, médecin des hôpitaux, Besançon, Franche-Comté. J'en suis au 2e temps de ma gymnastique matinale, à savoir la psychiatrie parmi les disciplines médicales. Alors en termes d'organisation, tout à fait d'accord pour qu'il y ait des aspects sanitaires pour les soins aigus à moyen et à long terme, pour qu'il y ait l'accompagnement et les structures médico-sociales pour les handicaps d'origine psychique comme pour les handicaps d'origine somatique, mais qu'en est-il en psychiatrie aux différents âges de la vie des soins de suite et de réadaptation?
Oui, c'est alors dans le champ de l'autisme, finalement, on vient de découvrir que les enfants et les adolescents devenaient aussi adultes. Donc voilà, donc on nous a dit il faut faire du diagnostic précoce, très 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 précoce, donc on le fait. Et là maintenant, on nous dit bah vite occupez-vous des adultes. Et là, je parle des psychiatres. Voilà, ça concerne aussi la psychiatrie générale. Donc effectivement, tout ce qui est soins de suite et ce que vous évoquez, qui est plus enfin, du registre peut-être de la psychiatrie générale et adulte, et ben c'est pas encore intégré là dans les systèmes d'organisation et de pensée. Je pense que ça va venir. Et en tout cas, on peut se dire que quand même, il y a certains services de psychiatrie adulte qui identifient les personnes avec autisme, qui vont les accompagner et qui après vont les orienter vers des services, des soins de suite ou plus adaptés aux personnes avec autisme, ce qui n'est pas le cas encore actuellement de façon généralisée, c'est vrai.
Madame, oui, en haut à gauche.
Bonjour, Nathalie Borgne, PSM de Lille.
On vous entend mal, est-ce que vous pouvez parler
plus
fort ? Oui,
Nathalie Borgne, PSM de Lille. Juste une petite remarque et aussi question du coup à l'ensemble. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément d'interfaces entre les parents, bien évidemment, les enfants, et puis qui deviennent adultes, et puis tous ces intervenants à la fois du médico-social, du sanitaire et de l'éducation nationale. Quel outil de partage, quel accompagnement, et je pense en ça au carnet de santé numérique et notamment à Compilio qui a été mis en place en expérimentation, en outil d'innovation aussi en Rhône-Alpes Auvergne. Est-ce que vous envisagez par exemple d'utiliser, de développer Compilio aussi pour ces enfants autistes, un outil qui permet à l'ensemble des acteurs en tous les cas de partager et de se fédérer autour d'une prise en charge et d'un parcours ou pas? Et puis, merci madame d'avoir parlé et valorisé en fait les activités de télémédecine, de téléexpertise et de téléconsultation. Et vraiment, c'est aussi permettre le développement des compétences entre les acteurs, puisque notamment dans ces interfaces et en particulier sur la téléexpertise, on permet aussi le transfert de compétences.
Alors, je dois être très franche, je ne connais pas le carnet de santé numérique dont vous parlez. Donc, en tout cas, mais peut-être qu'effectivement... Sur l'Île-de-France, mais je ne représente pas toute l'Île-de-France, ni tout Paris. Hein, donc peut-être que
mais c'est autorisé, le carnet de santé numérique?
Alors, le carnet de santé numérique Compilio est bien évidemment autorisé. Il a été mis en place par l'association R4P et les HL, les Hospices Civils de Lyon. Il est en expérimentation déjà depuis 4 ans, notamment dans le cadre des enfants présentant un handicap, en particulier aussi très utilisé dans le cadre des maladies rares. Et donc, c'est la famille et l'enfant qui ouvrent le carnet de santé et qui donnent l'autorisation à différents professionnels intervenant autour de la prise en charge de l'enfant de le renseigner, mais aussi de le consulter. Il n'y a donc plus de valise avec tout un tas de dossiers et aussi un partage en permanence autour de la prise en charge et du parcours de l'enfant. C'est développé dans le cadre de l'e-santé et de Pascaline, la plateforme numérique Rhône-Alpes Auvergne. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'y regarder. En tous les cas, c'est disponible à Internet et vous pouvez trouver les informations.
D'accord. Merci de cette information.
Eh oui. Merci, effectivement. Je pensais que... Enfin, ça n'est qu'une expérimentation pour l'instant, a priori. Hein. Il faut attendre la généralisation ensuite. Bien. Peut-être la conclusion avec M. Schmitt.
Oui. Là, je vais reprendre ma casquette de membre du COPIL et puis de rapporteur de la pédopsychiatrie. Puisque bon, dans les préconisations sur lesquelles on a commencé à réfléchir, il y a des aspects qui concernent la formation et pas uniquement la formation des médecins. C'est vrai qu'il y a la formation initiale des médecins qui est clairement un enjeu très important, on en a parlé hier. Après, effectivement, il y a la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que très clairement, moi, quand j'ai commencé mes études, l'autisme, les troubles du spectre autistique, les troubles envahissants du développement, ça n'existait pas. Donc c'est des choses, il a fallu qu'on se forme au fur et à mesure. Mais il y a la formation des autres professionnels. Et vraiment, je voudrais faire un plaidoyer pour la nécessité, effectivement, d'intégrer rapidement la problématique des pratiques avancées, et en particulier pour le personnel infirmier. Je pense que c'est pas du tout dans l'idée... Enfin, je pense qu'effectivement, il peut y avoir... la pression de la démographie médicale peut être un aiguillon, mais je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que pour moi, il je dirais que j'ai commencé à réfléchir à ces questions-là avant même qu'il y avait des problèmes de démographie médicale, dans l'idée que un personnel infirmier formé et formé à certaines techniques est une aide et fait des choses que nous, en tant que médecins, on ne peut pas faire. Et je crois que là, vraiment, il y a une vraie réflexion à avoir. Par contre, c'est quelque chose, on a parlé des coûts de la formation, c'est quelque chose qui a un coût. Vous parliez de la fidélisation, hein, on va dire, des personnels. C'est sûr que si vous formez et vous reconnaissez des compétences en tant qu'infirmière en pratique avancée un certain nombre de personnels, c'est pas avec le salaire de base que vous les retiendrez. Là, il y a une réflexion, on va dire, médico-économique à avoir. Et il serait dommage qu'on se vitalement heurte à la dure réalité financière, parce que je crois qu'il y a vraiment des enjeux, et là je reviens sur l'intervention qui a ouvert nos journées, hein, de M. M. Je dirais l'investissement sur l'avenir et le retour sur investissement. Je pense que vous avez eu aussi quelques diapos qui montraient bien que, certes, on peut être amené à dépenser entre guillemets plus à un moment donné, mais pour un retour, bon, effectivement, plusieurs années plus tard, malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, il faut l'avoir en tête.
Merci. On va pouvoir vous applaudir, docteur Doyen, pour cette présentation.